Bonjour à tous et merci à vous. Voilà, on rentre de congé, on est rentré vendredi, on a pris 2 semaines, ça nous a fait du bien. On était en Savoie, il faisait un peu plus moche qu'ici je pense, mais ça nous a quand même fait du bien. Voilà, donc ce matin je vais aborder une série de prédications, ça tombe bien. Alors, en tout cas moi, voilà, je rentre de vacances et du coup on reprend et cette série du coup ce sera sur le travail. 3 prédications sur le travail, travail qui est quand même important, qui fait partie de nos vies et qui prend de la place. Est-ce que vous connaissez les chiffres un peu du travail en France? Quelques chiffres, ça permettra de vous réaliser. Voilà, on passe dans notre vie 100 000 heures au travail, minimum, donc on peut faire plus, soit à peu près environ 12 ans, c'est une moyenne. 12 ans, si on va jusqu'au bout, donc on passe entre 15 et 23% de son temps au travail. Tout dépend après la durée et notre travail, mais on passe quand même un bon bout de temps au travail. Alors, ces chiffres sont en baisse, puisque du coup, depuis la Troisième République, on passait 70% de son temps au travail, c'est encore plus conséquent. Début du XXe siècle, on passait 40%, et puis voilà, avec l'avancée des acquis sociaux et de la technologie surtout, on passe moins de temps au travail, ce qui ne veut pas dire que la prise mentale du travail a diminué. Bien au contraire, elle s'est même accentuée, la charge mentale au travail. Mais bon, ça c'est une autre question. J'en avais parlé, je crois, l'année dernière, sur le repos. Donc voilà, je pense que c'est bien de pouvoir faire une série sur le travail. Ça met en honneur le travail, puisque beaucoup de personnes, et peut-être vous, on peut voir négativement le travail, et on peut comprendre quelquefois pourquoi. Mais du coup, c'est se pencher ce matin sur... Finalement, le travail, qu'en dit la Bible? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou une vocation? Ou les deux? Mais du coup, c'est savoir du coup finalement qu'est-ce que en dit la Bible. Un chrétien ajouterait peut-être, oui, d'accord le travail, mais bon, la dureté c'est causé par le péché et la chute. Mais du coup, on va voir un peu ce que la Bible dit du travail. Est-ce que du coup c'est un mal nécessaire? Ou une vocation? Est-ce que plutôt vous êtes comme ce bonhomme là et le travail du coup voilà, vous y allez parce qu'il faut y aller et il faut nourrir la famille, ou du coup vous vivez plutôt comme une vocation? Et quand je parle ici de vocation, c'est un appel de Dieu. Dieu qui nous appelle ici à travailler. Je vous invite du coup à vous pencher sur l'origine du travail. Et la doctrine chrétienne concernant le travail, ici, elle a une noble origine, puisque dès le début de la Bible, on peut voir qu'elle est liée à l'image de Dieu. L'image de Dieu en nous et son énergie créatrice. Dans le chapitre 1 et 2 de la Genèse, nous sommes face à un Dieu qui crée, qui est à l'action, qui travaille. C'est le terme, en tout cas, c'est le terme hébreu qui est employé aussi. Quand Dieu crée, il travaille. C'est le même terme qui sera employé quand il va être question de l'homme qui travaille. Et du coup, ici, Dieu se met à l'œuvre et il nous montre par son exemple que le travail est important dans les cieux et sur la terre. Dieu a travaillé pour créer les cieux et la terre, il a rassemblé les eaux en un endroit, il a fait apparaître la terre sèche, il a fait pousser sur la terre des arbres, des plantes, il y a les animaux, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, il a créé tous les êtres vivants, puis il a placé du coup l'homme et la femme. Et voici comment se termine du coup dans Genèse chapitre 1, après toute cette phase active de Dieu, cela se termine par cette déclaration. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Et puisque Dieu lui-même est travailleur, il attribue à tout travail une valeur. Et notre travail ici a une valeur. Peut-être que vous ne l'aimez pas, votre travail, ça peut arriver, mais pour Dieu, il a une valeur. Et tout travail ici a une valeur. L'enseignement contenu dans la Genèse 1, c'est Dieu créa l'homme à son image. Et l'homme est donc par nature un travailleur. Il doit l'être, en tout cas, comme Dieu l'est. Et si nous exerçons du coup bien nos fonctions, l'image de Dieu sera d'autant mieux reflétée en nous. Et il existe ici voilà, une dignité dans le fait de travailler, d'être travailleur, puisque Dieu lui-même est travailleur. Et ce matin, voilà, si vous devez peut-être retenir quelque chose, c'est que notre travail, votre travail, ce que nous faisons a de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas juste à notre relation que nous avons à lui, il s'intéresse à tous nos aspects de la vie, et y compris à ces 15-23% que nous passons au travail, où Dieu nous demande finalement d'être à notre place et de faire. On peut noter quelque chose d'important, c'est que Dieu a assigné à l'homme son travail avant la chute. Le travail, c'est pas une conséquence du péché. Puisque avant même, dans Genèse 2, il est dit ceci, « L'Éternel Dieu prit l'homme, après qu'il ait tout créé, il va le placer dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » On pourrait se dire, « Attends, ça se trouve, il aurait pu faire, je sais pas, la première grève de l'histoire de l'humanité. Maintenant, comment ça se fait? T'as tout fait, pourquoi c'est moi qui dois faire ?» Mais ici, Dieu veut le rendre actif parce que lui-même a été actif. Et qu'il est bon pour l'homme de ne pas être oisif, mais de s'occuper, de travailler, comme Dieu lui-même le fait et l'a fait. Et ces versets, du coup, nous amènent à la conclusion que le travail ici est bon. C'est dur, hein. Il y a Jean-Marie, il dit amen parce qu'il a la retraite, donc il se dit c'est plus facile peut-être. Mais il a travaillé aussi Jean-Marie avant. Mais en tout cas, ici, c'est ce que la Bible déclare, le travail ici est bon. Malgré la croyance moderne, hein, et ça touche pas que les chrétiens, ça touche tous les individus, la croyance moderne que le travail, voilà, il est mauvais, il est non naturel. Mais en tout cas, c'est pas ce que la Bible ici nous dit. Dans le monde d'aujourd'hui, on cherche à fuir le travail, à chercher les plaisirs et la recherche du bien-être, et ce n'est pas mauvais. Mais du coup, en opposition au travail, comme si le travail, du coup, c'était un fléau à fuir. Et quand on réfléchit comme ça, quelque part, on reflète pas ce que Dieu veut que nous soyons, des travailleurs. Pourtant ici, comme je le disais, le travail fait partie de la vocation, c'est même une vocation de l'être humain, le travail qu'il soit manuel, intellectuel, artistique, scientifique, et puis voilà, du travail, il peut y en avoir dans tous les domaines, qu'il soit d'ailleurs rémunéré ou pas. Que l'on soit fermier ou agent immobilier, enseignant ou mécanicien, notre travail provient en fin de compte de Dieu lui-même, qui nous demande de faire, puisque nous avons été créés à son image. Et ça, c'est bon de se le rappeler. Quand on a du mal à se lever le matin, c'est bon de se rappeler que c'est Dieu qui nous appelle à travailler. Je me rappelle quand j'étais à Engie, il y a des moments, il y avait des périodes, voilà, surtout en hiver, là, c'est la période là, je pense à mes collègues, ils doivent galérer en ce moment, puisque voilà, le gaz en ce moment, il faut le sortir des citernes. Et du coup, il y avait beaucoup de travail. Il y a des jours, pourtant j'aimais ce que je faisais, mais il y a des jours, je disais purée, vivement que ça explose quand même, et que je sois tranquille. mais je me rappelais du coup, et ça doit nous motiver, que c'est Dieu qui veut que nous travaillions. Aussi dur que ce soit fatigant, et ça on va le voir pourquoi aussi, mais c'est Dieu lui-même qui a posé le travail avant même que le péché soit, ou ne fasse irruption dans la vie des hommes. Et c'est pourquoi nous devons accomplir nos tâches quotidiennes de manière à ce que nous reflétons la volonté de Dieu dans notre travail. C'est ce que nous démontrerons, et nous démontrerons ici que nous sommes à l'image de Dieu. Lorsque nous prenons conscience de cette réalité, notre travail quotidien prend alors tout son sens, et un autre sens. Et devient ici une source d'épanouissement. Alors, on va voir sur les deux prochaines prédications comment arriver à vivre mieux son travail, parce qu'il y a des moments c'est compliqué, puis des fois on n'aime pas son travail, hein, et ça arrive. D'ailleurs, sur les chiffres, je crois qu'il y a un Français sur deux qui aimerait changer. Mais du coup, c'est comment faire en tant que chrétien. Ça, c'est le travail tel qu'il a été défini avant la chute. Et puis, bien sûr, il y a le péché qui est entré avec la désobéissance de l'homme. Et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, finalement, a abîmé cette image. Et vient ensuite, du coup, la chute et la malédiction que Dieu va dire. Il va dire ceci dans Genèse 3. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Et aujourd'hui, dans tout travail qu'il soit, on peut expérimenter combien ça peut être difficile. La malédiction a rendu la nature peu coopérative, mais il n'y a pas que la nature. En tout cas, la nature de la terre. On voit également, et c'est beaucoup plus cela des fois qui nous peine dans le travail, que ce sont les conséquences sociales, l'impact du péché, et qui rend le travail plus pénible, la violence entre les personnes, les relations qui sont pas normales, qui ne sont pas apaisées, la jalousie, les injustices au travail ont un impact direct sur nous. Et le péché abîme les relations entre humains, et donc les relations au travail peuvent se trouver ici marquées par le péché. Ce qui fait du travail un labeur pénible. Et ici, il n'y a pas du coup de découverte. Dieu, la malédiction que Dieu prononce, c'est pas une malédiction pour faire plaisir. Il prononce un constat du péché. Parce que vous avez péché, voilà ce qui va se passer. Et finalement, ici, quand dans nos relations au travail, on discute, on parle, et ben on peut voir le marqueur ici du péché. Dès lors, l'homme doit gagner sa vie à la sueur de son front, et les conditions de travail dans le monde moderne peuvent ici varier en fonction des travaux que certains d'entre nous peuvent faire, mais le terme ici et la notion de labeur est présente. Le travail, du coup, se trouve de cette manière traversé par une contradiction quelque part. D'un côté, il fait partie intégrante du projet de Dieu pour tous les hommes, et d'un autre, il est directement atteint par les conséquences du péché, de la chute. Et du coup, notre travail ici, finalement, il reflète ce que l'être humain est, les vocations de Dieu et quelque part derrière la marque du péché. Ce qu'il est bon de retenir du coup, c'est que l'homme, dès le début de la création, est appelé à travailler comme Dieu a travaillé. Le travail, il n'a pas fait non plus son apparition à cause du péché, comme on peut le penser. Il était déjà une vocation avant. Et le travail fait partie du plan de Dieu pour un monde parfait. Si Dieu a institué à l'homme le travail avant la chute, c'est que c'était bon pour Dieu. Il a été conçu du coup par Dieu en tant qu'activité bonne et importante, et Dieu n'a pas laissé ici l'homme oisif, mais a placé l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Ça va ? Je dis des choses qui sont... normalement, voilà, c'est des vérités connues, mais c'est bon de se rappeler comment Dieu voit les choses et le fait que finalement c'est lui qui nous appelle à faire, à être en action. Alors le but du travail. Premier but du travail, c'est déjà de pourvoir à nos besoins. Quand il est question spécifiquement du travail, les intentions de Dieu ici sont claires. C'est un moyen par lequel le Seigneur, notre Dieu, veut que nous subvenions nous-mêmes à nos besoins. Et l'apôtre Paul, ici, va adresser une lettre, d'ailleurs, aux Thessaloniques, à la ville de Thessalonique et aux Thessaloniciens. En Macédoine, il va leur écrire ceci, 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12. « Nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix. » À vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, cela pour que nous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et ici, Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique à travailler pour ne dépendre de personne et pourvoir finalement qu'ils pourvoient eux-mêmes à leurs besoins. Certains chrétiens à l'époque de Thessalonique ne travaillaient pas. Alors, il y avait différentes raisons, et une des raisons dominantes, c'était « le Seigneur revient bientôt, donc qu'est-ce que je vais faire de travailler ?» et puis voilà. Mais en faisant comme ça, parce qu'il faut bien manger, ils dépendaient d'autres personnes. Et du coup, de leurs amis croyants, mais surtout d'amis non-croyants, qui entendaient la bonne nouvelle et disaient « attends, lui il me parle, alors qu'il fait rien de sa vie. » Et du coup, Paul ici va reprendre, et les Thessaloniciens en disant non, en rappelant le mandat de Dieu, la vocation de Dieu à tout être humain de travailler jusqu'à ce qu'il revienne, mais même après qu'il sera revenu, le Seigneur nous mettra à l'œuvre, on ne sera pas oisif. Dieu nous appellera encore à cultiver le jardin, à garder du coup nos travaux. Alors quels seront nos travaux quand Jésus reviendra? Ça, ce sera la question. Mais on ne sera pas oisif, mes frères et sœurs. Si vous le pensez, vous vous trompez lourdement. Le plan de Dieu ici demeure le même. Dieu est actif et du coup, il veut que nous soyons et que nous demeurons actifs. Les Thessaloniciens, du coup, vont être repris ici par Paul. Paul qui va leur demander finalement de travailler pour qu'ils puissent manger tout simplement et vivre. et en ne dépendant pas des uns et des autres, capables d'assurer finalement leur propre subsistance. Et pour nous, aujourd'hui, l'homme n'a pas changé, hein. Il y a 2000 ans. Le piège pour nous, il est tentant. Encore plus, je dirais, même pour nous, Français. Nous, Français, on aurait plus tendance à agir comme les Thessaloniciens. Pourquoi ? Parce que dans d'autres pays, si vous ne travaillez pas, vous mourrez. Hein. Vous n'avez rien, il n'y a pas l'État qui fait quelque chose, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien. En France, on a, et c'est une chance quand même, il y a la solidarité sociale qui est présente, et c'est une bonne chose, hein. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais du coup, la tentation, le péché, c'est un péché, serait de tordre cela, la chose, et de répondre à Paul, qui dit de travailler et de subvenir à ses besoins, en disant, mais pas besoin de subvenir à mes besoins, comme Paul le dit, parce que j'ai de quoi vivre en ne faisant rien. Parce que j'ai le RSA, j'ai la CAF, j'ai l'APL, et donc j'arrive à vivre. Et donc, monsieur l'apôtre Paul, moi je réponds à tes besoins, voilà, je subviens à mes besoins. Mais ce que Paul ici, et le terme qu'il emploie, c'est d'être actif. En le dépendant, c'est le terme qu'il a employé, hein, en ayant besoin de personne. Ça ne veut pas dire du coup qu'il faut nier les aides de l'État, hein, c'est nos droits, mais que ce n'est pas de ça que nous devons vivre. C'est de notre travail. Et les aides, ça s'appelle des aides, ça s'appelle pas ça s'appelle aide de l'État, c'est pas autre chose. Mais du coup, pour nous, voilà, on est marqué par le péché, hein, et le fait de fuir le labeur du travail. Et du coup, la tentation serait ici de ne rien faire. Comme les Thessaloniciens, finalement, Dieu veut nous reprendre en nous disant finalement non. Et Paul va dire, et on le verra la prochaine fois, il va aller même plus loin. Parce que Paul, il est doux, il est quand même gentil, même si des fois il est un peu violent. Il va écrire deux lettres aux Thessaloniciens. Là, on est dans la première lettre, où il va leur dire ceci. Et les Thessaloniciens n'ont pas entendu, ou ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas voulu changer. Je sais pas c'est quoi leur l'option. Bon, voilà, on va être gentil avec eux. On va dire qu'ils ont pas lu peut-être cette lettre. C'est passé à la trappe. Le facteur n'est pas passé. Et du coup, il va écrire une deuxième lettre où Paul va être beaucoup plus direct. Et on va le voir la prochaine fois où il va dire aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il va même dire aux frères et sœurs de l'Église qui travaillent d'exclure quelque part celui qui ne travaille pas parce qu'il ne fait pas honneur à Dieu, il n'est pas à l'image de Dieu qui lui est actif. Il va dire aux Thessaloniciens, bien sûr, après, de ne pas être en ennemi, de savoir reprendre les frères et sœurs, puisque ça reste des frères et sœurs, mais de pouvoir les conseiller, les orienter, les encourager aussi pour que finalement ils puissent être actifs. Pour nous, du coup, c'est un vrai challenge, et bon, c'est quand même, je suis quand même content de voir que dans la vie, voilà, les hommes, on n'a pas changé, hein, la nature de l'homme reste la même, et Paul aurait pu écrire cette lettre aux Français, chrétiens français, vous qui touchez peut-être des aides et qui voulez pas travailler, travaillez. Et si je réactualise cette lettre, elle pourrait bien nous parler. Mais Dieu nous appelle, du coup, ici, à être actifs. Deuxième point, le but du travail, c'est aider les autres. C'est présent dans durant toute la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. C'est un moyen pour lequel Dieu veut que nous venions en aide aux autres. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dans la jeune histoire de l'Église, on vient de parler de Thessalonique, il y avait une église macédoine, petite église, qui, eux, les chrétiens, c'est des bosseurs. Ils ont tellement travaillé, d'ailleurs, qu'ils vont tomber d'un peu dans l'autre extrême, mais on verra ça les prochaines fois. Et du coup, c'est une église qui aidait les autres églises. Paul va relever, d'ailleurs, l'église de Macédoine, qui va aider le ministère de Paul, mais aussi d'autres églises, alors que c'est une jeune et petite église. Et finalement, le travail nous permet aussi de venir en aide aux autres, dans la compassion et dans l'amour. Lorsque le travail de quelqu'un est béni, que cette personne, du coup, il prospère, Dieu nous appelle, ici aussi, même financièrement, à finalement rendre aux autres, à être généreux dans notre cœur. Alors, bien sûr, le travail, il peut avoir plusieurs effets, j'aurai pas le temps de tout aborder les deux prochaines fois, mais c'est aussi se dire de se réjouir quand notre travail prospère et de remercier Dieu pour cela. Alors vous allez me dire, ah ouais, ça c'est peut-être nouveau. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, voilà, les chrétiens, des fois, c'est un peu la théologie de la souffrance. Il faut souffrir pour être un bon chrétien. Je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, c'est pas biblique. Comme si, du coup, en souffrant, Dieu nous verrait mieux que d'autres. Mais Dieu, ici, nous appelle à nous réjouir de ses bénédictions. Et si notre travail porte du fruit, c'est remercier Dieu pour cela, et pas se chercher à sa, ou faire semblant d'être pauvre, ou je sais pas quoi. Il y a une histoire qui m'avait marqué, je l'ai pas noté, mais je vais le citer. Quand j'étais à la fac, voilà, il y avait le trésorier de la fac, c'est un bénévole, voilà, il était à la retraite, donc Simon, il s'appelle Simon à peine, il a travaillé, voilà, à l'usine Michelin, Clermont-Ferrand, il était ingénieur, donc il a fait toute sa carrière là-bas. Arrivé à la retraite, il a eu à cœur d'aider l'œuvre de Dieu, puis il a du coup été trésorier et comptable à la fac, quelqu'un d'assez assez actif, hein, Simon. Et il me racontait, voilà, il avait des problèmes de dos, et il se posait la question, voilà, quelle voiture je vais acheter. Et donc il a regardé quelle voiture il allait acheter, mais pour lui le critère, c'était pas la caisse ou la bagnole, c'était que les sièges soient les plus confortables possibles, parce qu'il avait des problèmes de dos. Et il avait vu une Mercedes, je ne sais plus laquelle. Et il a dit, ça c'est la meilleure, voilà, j'ai regardé le siège, ça m'irait bien. Mais il m'a dit, je ne peux pas la prendre, parce que si je la prends, et que je viens dans mon église avec, ça va faire parler. Et du coup, il a pris un C4, donc la deuxième voiture, un C4 Picasso, qui était bien aussi, hein, il était content. Mais j'ai trouvé que l'argument qu'il avait, et quelque part, c'était un bon frère, hein. C'est-à-dire qu'il a réfléchi pour pas faire de vagues et d'histoires. Mais ça montre qu'il y a une théologie chez nous qui n'est pas bonne. Parce que Simon, il a rien, voilà, Dieu l'a béni, c'est pas un problème si du coup il peut, en plus là, c'est, voilà, on n'est pas en train de taper de quelqu'un qui achète une voiture pour du m'as-tu vu, parce que là, c'est différent. Là, il y a un problème de santé, mais parce qu'il a peur que ça parle, et je pense qu'il avait pas tort. Et du coup, il a fait ça. Et ça montre que chez nous, il y a besoin de changer quelque chose. Notre logiciel ici, c'est pas nous, hein, c'est l'histoire de l'Église dont nous héritons. Théologie de la souffrance, où il faut montrer qu'on est miséreux même si on l'est pas. Alors que Dieu nous appelle aussi à vivre de sa bénédiction. Alors bien sûr, de l'autre extrême, il y a la théologie de la prospérité, où parce qu'on est chrétien, Dieu nous bénit. Et systématiquement, et ça c'est faux. Mais il faut pas non plus tomber dans l'autre penchant qui est parce qu'on est chrétien, on doit souffrir continuellement. C'est pas ça que Dieu nous appelle. Ça va ? Sauf si vous voulez souffrir, hein, mais bon, je pense que personne ici va lever la main, mais libre à vous. Bon, après, si vous êtes sado, c'est votre problème, hein, mais bon, c'est pas ce que Dieu nous appelle à vivre. Deutéronome 8, versets 17 à 18. D'ailleurs, Dieu va tellement nous appeler, voilà, qu'il bénit les projets de ceux qui se confient en lui, qu'il va même rappeler cela au peuple. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans tous nos projets, y compris dans le travail, c'est savoir mettre Dieu à l'honneur. Et quand on met Dieu à l'honneur, on est quand même beaucoup plus soulagé, malgré que ce soit difficile, qu'avec les collègues ou avec notre patron, voilà, lui, il me fatigue en ce moment. Mais ça permet de prendre de la hauteur et du recul. Notre travail ici, Dieu le veut, et il veut aussi nous bénir à travers ce travail, que ce soit financièrement, mais même au travers de nos contacts, le témoignage que nous pouvons avoir. Et nous pouvons ici être des canaux que Dieu utilise pour toucher les cœurs de nos collègues et de ceux qui nous fréquentent. Dans le monde, dans notre monde occidental, puis même dans notre monde général, hein, mais peut-être un peu plus dans notre monde occidental, nous vivons dans une grande prospérité et l'attrait du matérialisme est énorme. Et nous devons résister du coup à la pression de la consommation égoïste. Ce n'est pas du tout la vocation de Dieu par rapport au travail, accumuler pour soi des richesses, mais c'est aussi pouvoir être généreux avec ceux qui sont autour de nous. Tout en profitant aussi du fruit de son travail, il faut pouvoir profiter du fruit de son travail, mais pas acquérir pour acquérir. Jésus va, dans l'évangile de Luc surtout, parle beaucoup de cela, de finalement celui qui va acquérir beaucoup de richesses, faire des projets, et Dieu viendra le chercher la nuit qui suit. Et finalement, tout ça aura servi à rien. Notre travail doit rester à sa place, dans un équilibre, sans non plus tomber dans un extrême ou un autre. Le budget du chrétien, du coup, et d'un chrétien devrait aussi être très différent, du coup, d'un budget de celui qui ne croit pas au Seigneur, puisque du coup, ce que nous gagnons provient de Dieu, et nous devons voir, du coup, ici que, voilà, nous sommes des garants. Dieu nous appelle à être des bons garants qui arrivons aussi à bien gérer le budget dans la générosité vis-à-vis des autres. Ça va ? Alors pour conclure cette première partie, voilà, vocation ou mal nécessaire, c'est une vocation, même si on peut le vivre comme un mal nécessaire, le travail, et mal nécessaire, ce serait mal jugé, notre travail, puisque ce n'est pas un mal. On vient de le dire, Dieu a fait toutes choses bonnes, et le travail en faisait partie. C'est devenu un mal quelque part, parce qu'il y a la marque du péché, mais on ne peut pas dire que le travail il est mal. Et ce que nous devons vivre ici, c'est se dire, dans nos boulots respectifs, bah, finalement, Dieu m'appelle ici à être actif. Remettons le travail à l'honneur. Celui-ci est la vocation de Dieu pour chacun de nous. Être à son image et donc travailler. Et cet effort, ce labeur, n'est nullement une malédiction. Ainsi que le pensèrent même les Grecs dans l'Antiquité, hein, c'était la pensée, ou que l'estiment encore peut-être bien des personnes aujourd'hui, ignorant la vocation divine. Malgré l'entrée du péché, et que le travail peut être difficile par les relations avec nos collègues, notre patron, ou la pénibilité, Dieu nous appelle à cela, travailler comme lui est actif et non oisif. À être ses témoins par notre comportement, par la gestion de notre travail, de nos finances, pour que nos actions soient en adéquation avec nos paroles, comme Paul le dit aux Thessaloniciens. Encourageons du coup nous, aussi chrétiens dans ce sens, on a ici des profils différents, encourageons celui qui est fatigué à cause de son travail, parce que c'est difficile, et se rappeler que bah oui c'est difficile, à cause du péché qui est là, mais ça ne nous empêche pas de nous encourager à tenir bon, à persévérer dans notre travail, et aussi encourager celui qui est en recherche de travail, celui qui aspire à travailler, et tout en appliquant aussi ce verset. C'est Ecclésiaste 9 qui va dire ceci, Dieu nous attend dans l'action, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et ici le conseil que j'aimerais donner, c'est ne fais pas comme c'est l'influence de notre monde. Le verset ne dit pas ce que tu aimes bien, fais-le, c'est tout ce que tu as à faire, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Et le Seigneur ouvrira ensuite les portes pour nous venir en aide. Amen.